La mixophobie. Mixphobie? Moi, je pense pas. Après, il y a certaines personnes qui... Oui, il y a certaines personnes qui ont peur, mais sinon, on est dans un pays quand même... Regardez autour de vous, il y a toutes les couleurs, il y a toutes les origines, il y a de la mixité. Ouais.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Zoom Zoom Zen, 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses concepts. Et aujourd'hui, un concept qui a causé à Manon et Quentin un cruel ascenseur émotionnel, puisqu'en effet, en lisant trop vite le tableau des thèmes, ils ont cru qu'on allait parler de mixologie. La science du cocktail. Quentin, l'inventeur du bar à shot mobile, qui tient d'ailleurs à votre disposition pour vos mariages, anniversaires et bar mitzvah,
pas tout seul.
Se disait que pour une fois, il allait pouvoir briller dans le quiz. Quant à Manon, qui à l'adolescence avait découpé une photo de Tom Cruise qu'elle avait collée dans son carnet secret Hello Kitty, elle était également ravie, faut dire qu'avec le temps et les bar à shot parisiens, elle avait développé, on va dire, une certaine connaissance des mélanges alcoolisés. Ne la lancez jamais là-dessus, surtout en fin de soirée, elle peut vous en parler pendant des heures.
Quel oui. Bel Bacardi, oui. Quel bel whisky.
Oui, Manon.
J'aime bien la poire William,
oui.
j'aime bien le rhum,
aussi, oui.
J'aime bien le
chenon,
j'aime bien
la maréto,
la grappa
aussi. Ouais,
oui, la bière,
oui bon, non, mais non, on a compris, merci.
Changez de voix.
François Damiens, évidemment. Hélas, trois fois hélas, ce n'était pas la mixologie qui était mentionnée au tableau, mais la mixophobie, qui n'était pas, comme Manon et Quentin l'ont cru dans un deuxième temps, la peur de mélanger les alcools, mais la peur de mélanger les gens tout court. Aujourd'hui, on zoome sur ce phénomène qui fait qu'on a beau prôner la diversité, quand il s'agit de la vivre à son échelle, dans son quartier, dans l'école de ses enfants, ça devient plus compliqué. Un seul exemple pour illustrer cette tendance, la réaction de Cyril quand notre humoriste Marie Debreuer lui a annoncé hier son souhait de devenir propriétaire à Bagnolet. Comment ? À Bagnolet quoi ? Le visage de Cyril s'est littéralement décomposé. Ce n'était pas juste la cinquantaine. C'était l'idée qu'un être doté de raison, un être avec un cerveau opérationnel, un être responsable de ses actes, puisse décider sciemment d'aller s'installer à Bagnolet. Une stupéfaction qui en dit long sur la progression de la mixophobie au sein de la classe moyenne. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Bonjour Baptiste Roger Lacan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi sur Inter. Vous êtes historien, vous avez notamment dirigé La nouvelle histoire de l'extrême droite, parue aux éditions du Seuil le mois dernier. Vous consacrez dans ce livre un chapitre au Front National. Vous êtes aussi chargé de recherche à la Fondation Napoléon et enseignant à l'Institut catholique de Paris et à Sciences Po. Vous allez tout nous expliquer des ressorts et des enjeux de la mixophobie. Juste le temps de vous présenter ceux qui sont forcément un peu déçus. Mais non, les enfants, le monsieur ne va pas quand même nous faire des mojitos parce que le monsieur est historien. Ça n'a vraiment rien à voir. Manon, Marie, Quentin, lui, bonjour.
Bonjour. Bonjour à
ça
tous.
Ça tombe bien, on n'a pas bu ce midi en
oui,
plus. Donc
c'est
non, je ne sais vrai, si peu.
Totalement sobre.
À vos côtés, Baptiste, elle n'a rien contre la diversité tant qu'elle s'opère à l'intérieur du 12e arrondissement de Paris. Elle aime la diversité des boutiques, de Couples, Agnès B, Maison Kitsune, Ami. C'est quand même autre chose que l'affreuse uniformité des boutiques en dehors du 12e.
Avec le gros Bershka, là.
Manon, dans votre pièce jointe aujourd'hui.
Ah là là, oui, un écrivain aujourd'hui, une figure de la gauche progressiste des années 80 qui s'est transformée en militante d'extrême droite, grâce notamment à l'une de ses théories xénophobes, celle du grand remplacement.
Face à vous, Baptiste Roger Lacan, s'il était mixophobe, il ne pourrait pas exercer son beau métier de micro-trotteur. Chaque matin, il réalise, sans trembler, ce que Cyril considère comme un prodige, aller à la rencontre des passants, parfois dans des quartiers à deux chiffres, et en revenir, sans choper la lèpre. Quentin, vous avez soumis cette expression de mixophobie aux gens dans la rue. Alors, qu'en disent-ils déjà, est-ce qu'ils la connaissent ?
Personne n'avait vu passer ce mot, et j'avoue que moi-même, l'ayant découvert hier, c'est super cool de transmettre un mot à quelqu'un dans la rue qu'on ne connaît pas, et encore mieux, d'en discuter ensemble. On parle mélange, lecture, banlieue. Je vous raconte tout ça dans la prochaine demi-heure.
Vers 16h30, puisqu'au fond, croire que l'autre est différent, c'est un peu croire que la Terre est plate, nous jouerons avec les dernières perles du complotisme, cette discipline qui permet de diviser un peu plus les hommes, même si ça correspond aussi à la définition du zoom-zoom test. Juste avant 17h, nous serons rejoints par le virevoltant GC, qui lui embrasse toutes les différences, parfois même avec la langue. Après 17h, restez avec nous, et encore c'est soft. Après 17h, restez avec nous, on zoomera sur le congrès des maires de France qui s'ouvre aujourd'hui et qui s'annonce agité. Mais d'abord, Baptiste Roger Lacan, est-ce que la mixophobie, c'est tout simplement la peur de la mixité sociale ?
Je pense que c'est. Il y a deux choses. D'une part, c'est peut-être celle à laquelle on pense le moins. C'est-à-dire, quand on dit mixophobie, c'est intéressant. Dans l'un des extraits que vous passiez, la personne parlait des couleurs et des origines. Elle évoquait pas du tout l'inquiétude qu'on puisse avoir à se mélanger avec des gens d'autres origines. Donc je pense que c'est celle qui est. Peut-être la forme des phobies qui est la moins stigmatisée dans le discours public aujourd'hui, et en même temps sans doute la plus commune. C'est-à-dire que l'idée de se retrouver avec les siens socialement, par classe, c'est sans doute quelque chose qui réunit plus de gens. Et ensuite, si on regarde la longue histoire politique de la France, je pense qu'effectivement, c'est sans doute la première forme de mixophobie, dans le sens où quand on regarde l'avènement de la Révolution française et des réactions qu'elle suscite, notamment de la contre-révolution, on voit que la première réaction, c'est-à-dire la réaction ou l'extrémisme aristocratique, vient justement d'une réaction des anciens ordres privilégiés, en tout cas d'une partie des anciens ordres privilégiés, qui refusent le programme de la Révolution, d'égalité juridique devant la loi, de remise en question d'une pyramide et d'un ensemble de privilèges qui viennent les favoriser à l'intérieur de la société française, et qui vient ensuite réveiller chez eux un sentiment d'agression qui justifie une réaction très forte, parfois violente. Donc il y a une histoire très longue de la mixophobie sociale qui est peut-être un peu moins thématisée.
Alors, est-ce qu'on est tous mixophobes, parfois sans le savoir? On va en parler dans cette heure ensemble. Si je devais me suicider, ce n'est certainement pas la méthode que je choisirais, mais tu fais comme tu veux. Avait lancé Cyril Lacarrière en haussant les épaules quand Marie de Breuer lui avait fait part de son projet d'aller s'installer à Bagnolet. Oh. Pour lui, la mixité sociale, c'est super et même très inspirant, mais dans les films de Ken Loach. En vrai, c'est juste l'enfer. Cyril, racontez-nous, vous qui avez bien bossé le sujet, la mixophobie, d'où ça sort?
Imaginez, on parle de bons quartiers, de mauvais quartiers, de bonnes écoles et de mauvaises écoles, mais tout le monde jure qu'il n'est pas snob, on est juste prudent. C'est la France du 21e siècle, celle qui vante les mérites de la mixité, mais redoute de la vivre. Cette peur du mélange social, les sociologues l'appellent la mixophobie. S'il n'emploie pas encore le terme, le sociologue français Éric Morin en décrit très clairement le mécanisme dans son livre « Le ghetto français, enquête sur le séparatisme social » publié en 2004. Le repli résidentiel des classes moyennes et supérieures face à la peur du déclassement et du mélange social, Éric Morin théorise la sécession douce et parle d'une peur du déclassement par le voisinage.
Et alors ce mot mixophobie, à qui le doit-on ?
En 2012, le sociologue Michel Wieworka publie « La tentation antisociale » où il écrit ceci. « La mixophobie, c'est la peur du mélange, le refus de la diversité sociale et culturelle. Elle s'exprime dans la fuite des classes moyennes vers des espaces homogènes, protégés, où l'on n'a plus à côtoyer ceux qui ne nous ressemblent pas. » Fin de citation. La mixophobie devient aussi un sujet politique. Un exemple, la loi SRU du 13 décembre 2000 impose 20% de logements sociaux dans chaque commune. Et bien pour éviter de l'appliquer, certaines communes préfèrent payer des amendes plutôt que d'accueillir des foyers modestes. Voilà un cas de mixophobie appliqué à l'échelon institutionnel. On la voit aussi à l'école où il y a deux fois moins d'élèves issus des milieux populaires dans certains établissements privés que dans le public. Alors d'où ça sort la mixophobie? Et bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Baptiste Roger Lacan, pour être très concret, prendre un exemple simple qui peut parler à tout le monde, est-ce qu'on est mixophobe si on préfère mettre ses enfants dans une école privée plutôt que de les laisser dans le public? C'est déjà la base de la mixophobie?
Bah, dans la définition que vient d'en donner Cyril, oui, en un sens oui, et je pense que ça procède plus généralement d'un sentiment, je pense que c'est ça qu'il faut thématiser, c'est que les gens qui mettent leurs enfants dans le privé n'ont pas le sentiment de faire sécession. Ils le formulent effectivement, ils disent que c'est de la prudence, ils parlent des meilleurs résultats scolaires, etc. Mais en réalité, quand on regarde notamment l'histoire longue de l'enseignement privé en France, qui est très liée à l'histoire de l'école libre, de l'enseignement catholique, c'est aussi un sentiment, et je reviens à cette idée d'agression que j'évoquais tout à l'heure, au sentiment qu'ont eu une grande partie des masses catholiques en France d'être agressées par la modernité issue de la Révolution française. C'est-à-dire que l'égalité, la liberté, évidemment le programme religieux de la Révolution, qui s'est exprimé très directement contre l'Église catholique, a fait que toute une partie du peuple catholique a voulu se constituer et défendre des espaces dans lesquels il pourrait continuer à éduquer ses enfants comme il le voulait, dans lesquels il pourrait continuer à exercer une forme de contrôle, surtout pendant la Troisième République où l'État remet la main sur l'enseignement public. Et donc là, cette logique de repli sur soi, elle dérive d'une logique d'agression, et ça on la retrouve je pense encore aujourd'hui dans la volonté de beaucoup de gens d'aller à l'enseignement privé, c'est-à-dire de se protéger de dangers réels ou supposés, qui devraient leur permettre justement d'éviter d'exposer leurs enfants à une menace.
Mais il y a quand même la mixité dans les établissements privés.
Alors, ça dépend desquels. En fait, c'est que le privé, finalement, finit en France par représenter, je crois, c'est presque 25% aujourd'hui des élèves. C'est contrôlé, c'est-à-dire qu'on peut pas monter, l'enseignement privé ne peut pas monter au-delà d'un certain seuil d'élèves depuis les accords Lang-Cloupet. Et dans le privé, on voit qu'on a des privés d'élite, un peu l'équivalent d'Henri IV et Louis Grand, mais version privée, qui sont plutôt dans le centre de Paris et dans lesquels, même par effet juste de proximité, le public est extrêmement bourgeois. Et puis, on a du privé qu'on pourrait dire de proximité, parce qu'on le retrouve partout. En fait, historiquement, la quasi-totalité des écoles privées en France dérive de l'Église catholique, de l'enseignement libre. Or, la particularité de l'Église catholique, c'est qu'à part quelques zones, en gros, dans le grand croissant protestant du sud-ouest, elle est partout. Et donc, des écoles libres, on en a partout. Et donc, on a des écoles privées un peu partout sur les territoires, qui, elles, reflètent un peu plus la mixité sociale.
Mathieu Noël sur France Inter.
Tous des frères, mais chacun chez soi. Zoom cet après-midi sur un phénomène baptisé mixophobie, la peur de se mélanger, la peur au fond de vivre ensemble. L'historien Baptiste Roger Lacan est avec nous pour décrypter ce qui se cache derrière ce terme. Y a une peur de quoi ? C'est une peur de l'autre en soi ou une peur du métissage, du mélange, de la perte de notre identité, entre guillemets, si tant est qu'on ait une identité définie ?
Je crois que l'intérêt du terme mixophobie, justement, c'est de monter en généralité. La peur de l'autre, ce serait la xénophobie. Et la mixophobie, ça désigne justement très exactement la peur du mélange. C'est-à-dire l'idée qu'on a un groupe, une communauté qui est homogène. Et puis, des groupes à l'extérieur qui sont perçus, qui veulent rentrer dans la communauté et qui sont perçus comme des menaces.
Alors justement, on parle de perception. Vous êtes historien. Est-ce que déjà, si on joue le jeu des Zemmour et autres, est-ce qu'il y a effectivement une communauté française avec une identité française fixe qui ne devrait pas être souillée par l'arrivée d'autres représentants d'autres civilisations ?
Alors ça pourrait nous prendre beaucoup de temps, mais non, il n'y a pas une communauté française fixe avec une identité fixe depuis des siècles. Ça, c'est un fantasme qui est porté, qui a longtemps été porté quand même surtout par l'extrême droite, qu'il est par moments par une partie de la droite républicaine quand elle cherche à regarder, soit parce qu'il y a des espaces de porosité, soit qu'elle cherche des relais électoraux du côté de l'électorat d'extrême droite. Mais non, il n'y a pas une identité française fixe dans le temps. C'est une population, particulièrement la France d'ailleurs, qui est un pays qui a été... qui depuis deux siècles connaît des vagues d'immigration importantes, qui ont beaucoup transformé la population, qui en plus a connu des vagues même d'immigration intérieure, en fait, qui ont considérablement changé la France, qui il y a encore 80 ans était un pays à majorité rurale et qui aujourd'hui est un pays très urbain.
Donc, je vous écoute, la mixophobie est basée sur un fantasme, déjà, à la base.
Oui, complètement. En tout cas, elle est basée sur tout un ensemble de fantasmes qui viennent créer un sentiment d'agression. Après, je pense que la mixophobie ordinaire, elle est très répandue. C'est-à-dire que je pense que c'est un réflexe, je suis pas spécialiste de sciences cognitives, mais je pense que c'est quand même un réflexe de se protéger de l'extérieur, d'avoir un sentiment d'inquiétude par rapport à l'extérieur. C'est un réflexe
de ce qu'on ne connaît pas, en fait.
Ce qui est différent avec l'extrême droite, c'est qu'elle va instrumentaliser, elle va thématiser, elle va arsenaliser cette peur du mélange. D'abord, elle va la conceptualiser, elle va expliquer que, un, il y a une communauté homogène, deux, il y a effectivement une menace, et trois, il faut absolument se prémunir de cette menace, parce que si jamais la communauté historique, la communauté identitaire commence à se mélanger, dans ce cas-là, c'est le début de sa destruction, en fait. Et ça, c'est un peu la complainte obsessionnelle de la contre-révolution et surtout de l'extrême droite à partir de la fin du 19e siècle qui se rejoue jusqu'à aujourd'hui.
Est-ce que cette mixophobie se retrouve aujourd'hui dans des discours d'hommes politiques, de partis politiques? Est-ce que Zemmour, est-ce que le Rassemblement National?
Alors, Zemmour et le Rassemblement National, absolument. Je pense qu'une partie, voire la totalité des leaders des Républicains, aujourd'hui le reprennent. Alors, en le mettant plus ou moins en avant, les Républicains continuent à vouloir se distinguer de l'extrême droite en mettant en avant leur orthodoxie budgétaire, donc en cherchant à se distinguer sur cet aspect-là. Donc, en fait, l'argument économique est devenu une manière pour eux de dire qu'ils ne sont pas tout à fait comme l'extrême droite. Mais par ailleurs, Bruno Retailleau l'admettait quasiment il y a quelques mois, en disant qu'il n'y avait plus grand-chose à part l'économie qui les séparait du RN. Et alors, pour le coup, le RN est à fortiori reconquête. Eux, effectivement, jouent complètement ces réflexes mixophobes selon des modalités qui sont un peu différentes, avec des partitions qui ne sont pas tout à fait les mêmes parce que leurs stratégies ne sont pas les mêmes. Mais oui, bien sûr, c'est des partis qui aujourd'hui assument complètement ces discours.
Ça veut dire que le discours mixophobe, si on peut l'appeler comme ça, marche auprès des électeurs aujourd'hui?
Oui, c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les travaux, notamment de sociologues politiques qui ont beaucoup travaillé sur les relais, les leviers du vote d'extrême droite, je pense à Félicien Faury, à Benoît Coquart, etc., eux, ils ont clairement montré que le racisme, la xénophobie restait un levier majeur du vote de l'extrême droite en France. En montrant combien, effectivement, dans les choix, en fait, dans les raisons qui sont invoquées par les électeurs qui votent RN, la peur, le rejet de l'étranger, en fait, arrive très très vite. Ce qui se retrouve par ailleurs dans les sondages. À l'heure actuelle, l'électorat Rassemblement National reste l'électorat qui défend le plus nettement des thèses racistes et xénophobes et des thèses antisémites.
Oui, mais alors c'est dissible. Alors, on avait fait une émission sur la fenêtre d'Overton qui s'ouvre. Mmh. Est-ce que ça rentre dedans, la mixophobie ? Est-ce qu'on l'aurait dit il y a 30 ou 20 ans comme ça?
Alors après, je n'ai jamais oublié qu'il y a 35 ans, Jacques Chirac parlait du bruit et des odeurs à un congrès du RPR avec Alain Juppé mort de rire à côté de lui. Donc je pense qu'il y avait aussi des sensibilités qui étaient les mêmes, qui n'étaient pas les mêmes. Le RPR des années 80-90 portait des discours qui paraîtraient aberrants s'ils étaient portés par Horizon, dont une partie des membres viennent du RPR. Donc je pense qu'il y a... Il y a une évolution, par contre, ce qui est certain, c'est que la montée en puissance du Rassemblement National, le fait qu'il y ait une porosité croissante entre les électorats de droite et d'extrême droite, entre les idées qui sont portées par la droite et par l'extrême droite, tout ça fait qu'il est de moins en moins problématique de reprendre à son compte des théories, des termes qui viennent de l'extrême droite. Mmh. Et c'est peut-être ça la différence.
Sans lui, Manon serait probablement aujourd'hui une mixophobe de la pire espèce. S'il n'était pas entré dans sa vie à la faveur de cette émission, si par sa gentillesse, son intelligence, il n'avait pas réussi à lui démontrer que les gens venant d'Alençon sont des êtres humains comme les autres, des êtres humains à part entière,
un peu,
elle
ouais.
serait toujours cette indécrottable parisienne qui pense que Coulommiers est une blague, pas une ville.
Ou un fromage.
Merci pour ça. Ou un fromage, c'est vrai. Et merci d'avance pour votre traditionnel micro-trottoir.
Et alors que je sors le micro France Inter de ma poche, je tombe sur cette dame d'un certain âge, mais coquette, les cheveux impeccables, le manteau en fourrure et le maquillage légèrement appuyé.
Oui, bonjour.
Quel est votre prénom, madame ?
René.
Est-ce que j'ai le droit de vous demander votre âge ?
Non.
Vous êtes à la retraite ?
Très âgée, oui.
Je vous fais lire un mot. Et oui. Vous me dites si vous en connaissez le sens.
La mixophobie, la peur de tout, à la peur du mélange. Oui, de la mixité, oui, d'accord. Ça me venait pas à l'esprit. Enfin, je voyais mixo, je sais, phobie aussi, mais bon. D'accord, la peur du mélange, ok.
Je vois bien qu'elle se méfie un peu de mes questions et de mon histoire de nouveaux mots. Je lui pose quand même cette question. Est-ce qu'on a peur de se mélanger ? Est-ce que vous avez peur ?
Moi, pas du tout. Sur les réseaux sociaux, les gens ont peur.
Pourquoi on n'arrive pas à se mélanger ? À votre avis, René ?
Je comprends pas. Moi, personnellement, je comprends pas. Mais je vous dis, je crois qu'il y a une peur sociale, il y a une... peut-être qu'il n'y a pas assez d'éducation, peut-être qu'il n'y a pas assez de lecture. Quand on lit beaucoup, quand on lit des écrivains de tous les pays, on se rend compte qu'on est tous pareils.
Je lui demande si elle a en tête un livre qu'il faut lire pour s'ouvrir aux autres.
Non, c'est que quand on lit un livre d'un auteur égyptien, un livre d'un auteur noir, un livre... on sait qu'on a tous les mêmes préoccupations, les mêmes sentiments. On vit la même chose, on est, on meurt, on a des parents, on les perd, on a des... voilà.
C'est la lecture qui va sauver le monde.
Peut-être, mais il faudra encore que les gens lisent.
C'est pas faux. Ma deuxième rencontre, ce sont ces trois potes qui sourient en me voyant débarquer de nulle part avec un micro rouge. Quels sont leurs prénoms ?
Moi c'est Lolo.
Yann.
Moi c'est Maxime.
La mixophobie. Mixphobie, c'est ça, non ?
La couleur, par rapport à la couleur. Et genre les blancs, les noirs.
Ah, la mixité.
La mixité, ouais, quoi. Ouais.
C'est la peur du mélange.
D'accord, ouais.
Est-ce qu'on est dans un pays qui a peur du mélange ?
Non, moi je pense pas. Après, il y a certaines personnes qui... oui, il y a certaines personnes qui ont peur, mais sinon on est dans un pays quand même... regardez autour de vous, il y a toutes les couleurs, il y a toutes les origines, il y a de la mixité, ouais.
En fait, ils ne se sentent pas trop concernés par notre mot du jour.
Non, parce que nous, on a grandi en banlieue.
On a grandi en banlieue. Donc, ouais, nous, on était mélangés déjà. Donc, c'est quoi ? C'est l'école, hein ? Ouais, c'est l'école, la vie, c'est...
Moi, j'en pense que nous, on est mélangés depuis qu'on est petit. Donc, en fait, la vraie question, tu devrais demander plus aux personnes blanches. Blancs.
Ouais.
C'est pas vraiment nous. Parce que nous, en vrai, on se mélange avec tout le monde. Que tu sois chinois, que tu sois ce que tu veux.
On est tous des êtres humains.
Hein. Voilà. On fait tous des cauchemars, on fait tous caca, on fait tous pipi. Voilà.
Alors justement, ce groupe de musiciens maintenant devant moi, ils sont blancs, entourés de valises et d'étuis d'instruments en tout genre. Je rencontre Guillaume. Qu'est-ce que vous faites dans la vie et qu'est-ce que vous faites avec autant d'instruments de musique ?
Eh ben, on est musiciens et on revient de jouer notre spectacle Nuit Noire à Nîmes.
Ils découvrent le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
La mixophobie. Bah écoute, c'est la première fois que j'entends parler de ce mot.
Quand t'aimes pas les mixologues, ceux qui font des cocktails, tu peux pas les blairer, ces mecs. Ils te font un mojito à 15€, c'est pas possible. Je suis mixophobe.
Ouais, bon, la blague n'ayant pas été faite dans l'émission, je voulais assurer tout le monde qu'elle était bien arrivée dans la rue. Mais ça intéresse Guillaume et son pote, ça.
Mais je connais pas le mot et c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il est pas venu jusqu'à mes oreilles. Et pour autant, c'est quelque chose qui nous traverse. On est breton, on est créole. On travaille beaucoup sur la créolisation, en tant qu'artiste, sur des thèmes qui nous portent.
Nous, ce qui nous porte en tant qu'artiste, c'est la vision d'Edouard Glissant sur la créolisation du monde notamment et sur sa pensée archipel. La créolisation pour lui, c'est du métissage qui produit de l'imprévisible. Et du coup, la pensée archipel, l'idée, c'est qu'on est toutes des petites îles et qu'on a besoin des autres, en fait, et des autres petites îles pour évoluer.
En rangeant le micro, je me dis que ce mot compliqué, René le défie par la lecture, les potes l'évitent par l'évidence du vivre ensemble, et Guillaume le décortique et lui donne du sens sur scène, moi je le résume à avancer vers l'autre sans se méfier, comme ici, dans la rue. Et parfois, une simple discussion, un simple échange suffit à faire mentir un mot qui peut faire peur.
Toujours ramener finement la couverture à soi du Quentin, lui, dans le texte. Merci Quentin. Baptiste Roger-Lacan, vous en pensez quoi de ce concept assez poétique d'archipel du romancier Édouard Glissant ?
Je trouve qu'il est très beau. Je trouve que ça, ce qui est intéressant, c'est que les cinq personnes cherchaient plutôt à le dépasser, en fait, quand même, en disant tout d'une manière ou d'une autre, en nous ramenant à l'universel, au fait qu'on était tous des êtres humains, en postulant, en fait, qu'on avait... qu'on était des êtres humains et qu'on était tous liés par des droits naturels qu'on a tous, ce qui est d'ailleurs ce que conteste l'extrême droite depuis deux siècles. Donc je pense que c'est intéressant.
C'est le discours de rue, mais on voit bien que dans la réalité et dans les chiffres, ça se voit pas forcément.
Ça se voit pas forcément. Le dernier, je crois, des intervenants disait que ça nous traversait tous à un moment ou à un autre. Je pense qu'il y a aussi ça. Je pense que la mixophobie, c'est peut-être un concept qui permet d'ailleurs peut-être de thématiser un petit peu mieux que. Je pense que personne se dirait xénophobe.
Non. Par contre, tout le monde peut assumer une part de mixophobie.
Exactement.
Dans certains domaines, dans certains moments de la vie.
Peut-être d'un petit peu mieux réfléchir à ces refus, à ces rejets de l'autre qui peuvent nous traverser.
Il y a de plus en plus d'événements, de soirées, on en a fait des émissions qui sont organisées, des soirées non mixtes par exemple. Est-ce que ça participe à cette mixophobie ou est-ce que c'est une manière justement pour certaines minorités de trouver aussi des safe places ?
Alors, il me semble que ça vient pour le coup de tout ce qui relève du militantisme décolonial, féministe, etc. Je connais mal, ma spécialité c'est l'extrême droite, donc c'est vraiment l'autre côté.
Oui, dis donc.
Mais il me semble que dans cette logique-là, l'idée c'est qu'à partir du moment où des populations minoritaires, dominées, agressés ou potentiellement agressés dès lors qu'on leur laisse pas d'espace spécifique. Ces gens-là ont besoin d'espace pour pouvoir se réunir, pouvoir s'organiser, pouvoir échanger et discuter. Mais c'est toujours corrélé à l'idée qu'ils sont dominés. Donc c'est pas tout à fait. J'ai l'impression que le terme de mixophobie connote en tout cas l'idée que ceux qui ont peur de se mélanger, c'est le groupe majoritaire. C'est intéressant, le deuxième groupe de personnes que vous intéressez dit que c'est les Blancs. Effectivement, en France, le groupe majoritaire premier, c'est les Blancs.
Pourquoi ils n'ont pas la même vision ? C'est parce qu'ils ont grandi en banlieue. Finalement, on se mélange plus en périphérie que dans certains quartiers de la ville ?
Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'en tout cas... Alors, eux parlaient de mélange, parlaient d'ethnie, ils parlaient d'origine
pas sociale,
géographique. Socialement, j'ai le sentiment, je crois que les banlieues sont de moins en moins mixtes, de la même manière que les quartiers centraux le sont eux aussi de moins en moins. Mais eux, là, pour le coup, prenaient vraiment cette question de la mixité du point de vue de la mixité ethnique, culturelle. Là, effectivement, je pense que... il faudrait regarder, parce que par ailleurs, Paris est une ville relativement mixte, alors que c'est là aussi la ville la plus riche de France et de très très loin.
Mais justement, peut-être finir là-dessus cette partie. Est-ce que la mixophobie, ça concerne plus la peur de l'autre en tant qu'autre ethnie, autre couleur de peau, ou ça donne plus l'autre en tant que le riche quand on est pauvre, les classes moyennes quand on est riche, en fait, etc. Est-ce que c'est...
Je crois que c'est les deux. Moi, ce qui me frappe le plus dans ce terme de mixophobie, une fois plus, c'est cette peur du métissage. Donc c'est pas tellement la peur du contact ponctuel avec l'autre, ça je pense qu'on y reviendra quand on parlera des identitaires et tout, c'est la peur du mélange avec l'autre et du produit de ce mélange, c'est-à-dire vraiment la peur du métissage qui, du point de vue des gens qui viennent instrumentaliser, transformer la mixophobie en véhicule de combat, revient en fait à un abâtardissement, c'est-à-dire qu'en fait dès lors qu'on métisse, on trahit, on pollue et progressivement on fait décliner la communauté centrale. Donc je pense que c'est surtout ça en fait, à mon avis, si on veut recentrer le terme sur quelque chose qui permet peut-être d'identifier un point vraiment problématique un peu dans le débat et dans le champ politique français, je pense que c'est vraiment cette peur du métissage et donc des conséquences du métissage en fait, c'est surtout ça qui inquiète.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Le Zoom Zoom Test, c'était le moment qu'attendait avec impatience Manon quand elle croyait encore que la mixophobie était liée d'une manière ou d'une autre à l'art du cocktail. C'est super, je vais tout déchirer. Il y aura peut-être même des dégustations, l'occasion de leur montrer ma technique du blocage de glotte pour boire plus en moins de temps, s'enthousiasmait Manon avant, on l'a vu, de tomber de haut. Rassurez-vous néanmoins, le quiz ne va pas porter sur la mixophobie en tant que telle, le thème est trop plombant, mais sur un des phénomènes qui le sous-tend, le complotisme. Pourquoi ? parce que j'en ai décidé ainsi. Jouons au Zoom Zoom Test.
C'est recyclé, ça, non ?
La famille, alors c'est absolument pas recyclé, c'est un quiz tout neuf pour le coup. Et donc c'est juste, on a juste tapé un petit peu à côté du thème. Dans la famille des mixophobes, je demande donc le tonton complotiste. Oui, Manon ?
Pierre Courade.
Oh oui, vous prenez la main d'entrée de jeu, c'est bien joué. Oh yes. Oui, puisqu'au cœur de notre sujet, il y a la petite musique du complot.
J'aurais dit le papy, c'est pour ça.
Ce quiz sera un voyage au pays des théories les plus fumeuses qui peuvent circuler dans l'espace public, comme le couradisme, un mélange curieux entre révisionnisme culinaire et conviction que Lourdes est le centre du monde. On commence ce voyage en Australie, avec le meilleur des guides, Ghislain Fontana, notre réalisateur anti-vax, qui, je le cite, ne suit personne sur les réseaux. Ne suit personne sur les réseaux, à part bien sûr Florian Philippot, parce que lui dit tout fort la vérité que les reptiliens nous cachent. Ghislain, un garçon à part, le dernier parisien à faire des revers à son chino slim, s'il affirme... C'est le dernier. Hein,
c'est
le dernier. S'il affirme avoir été enlevé par des aliens dans un vaisseau spatial en forme de semelle Birkenstock, il bouffe aussi à tous les râteliers du complotisme. Et s'il est allé en Australie l'été dernier, ce n'est pas pour découvrir la culture aborigène, mais pour vérifier par lui-même. S'il était vrai que les Australiens étaient toujours en tongs parce que leurs griffes d'aliens empêchent le port de la chaussure fermée, si ce pays existe vraiment parce que, comme la Terre est plate, ça doit être un complot de la NASA, ou si les kangourous sont vraiment les reptiliens qu'ils prétendaient.
B
A et B.
B.
On l'aurait pas inventé le A.
C'est vrai que difficilement. Oui.
B, tout
vous
simplement.
Vous êtes sûr. Vous êtes sûr de vous, Manon. Vous validez votre choix.
Allez, c'est bon. Mais
c'est une bonne réponse de Manon Mariani. Implacable logique du platiste. Réfléchissez deux secondes. Si la Terre est plate, il ne peut pas y avoir un pays sous nos pieds. Donc les Australiens n'existent pas. Ce sont tous des acteurs payés par la NASA. Ou alors, autre théorie, les Anglais n'ont pas envoyé leurs bagnards en terra incognita, mais ils les ont noyés en mer et ont donc monté toute une légende pour dissimuler leur forfait. Eh bien, il y a des forums sur lesquels les gens débattent très sérieusement de tout ça. Mais restons sur terre. On y est si bien. Enfin, plutôt, sous terre. Depuis le XVIIe siècle prospère la théorie de la Terre creuse, qui n'est pas, comme je le croyais, cette théorie farfelue selon laquelle Paris serait traversée par un petit train souterrain où les gens s'entasseraient aux heures de pointe de leur plein gré. Mais une théorie un chouïa moins invraisemblable selon laquelle les terriens ne seraient pas les seuls habitants de la planète bleue. Il y aurait des souterriens, souterrains, si j'ose m'exprimer ainsi. En tout cas, il existerait tout un monde caché sous nos pieds, un royaume méconnu, auquel on accède grâce à deux ouvertures, une à chaque pôle. Un royaume où les déros, descendants d'une race supérieure préhistorique, se servent de machines pour faire chier les humains. Ou un royaume secret qui sert de base souterraine aux ovnis.
Les trois.
Les trois. Vous pensez, Quentin, que les gens seraient assez...
Oui, il y a les trois, je crois.
C'est une bonne réponse, Quentin. Oui. Les trois, non seulement il y a un peuple qui vit sous terre, mais ils se sont fixés pour mission de nous pourrir la vie. Alors attention, on touche là à la quintessence du gay savoir grâce à Richard Shaver, le théoricien de la Terre creuse. Richard Shaver. Le théoricien de la... Richard.
La shave, comme on l'appelle.
Théoricien de la Terre creuse et ceinture noire de la zinzinade, qui nous explique très calmement que les déros, les detrimental robots ou robots nuisibles, utiliseraient des machines abandonnées par des extraterrestres il y a fort longtemps, juste pour nous enquiquiner. Mais allons plus loin. Ce concept selon lequel les extraterrestres seraient venus sur Terre à la préhistoire et pendant l'Antiquité, c'est bien sûr, parce que ça a un nom, le mythe des bâtisseurs premiers, dite théorie de Gibbs, la légende des tuteurs galactiques ou la théorie du paléocontact.
Nous avons un historien parmi nous, peut-être
Baptiste, voulez-vous tenter une réponse?
J'avais jamais entendu
parler de ces théories.
Non. Faut sortir
de l'extrême droite, mon vieux.
J'ai dit c'est.
Moi, je dirais A.
Les bâtisseurs premiers, ça sonne bien, ouais. Ça me rappelle, je sais pas, c'est pas tiré de la série Foundation, ça, ce terme-là. Peut-être. Isaac Asimov, peut-être. En tout cas, c'est pas la bonne réponse. Quentin, la bonne réponse, c'est Manon qui l'a. Réponse C, vous aimez le paléolithique, vous aimez le full contact, vous allez adorer le paléocontact. Cette théorie complotiste qui veut que toutes les grandes inventions humaines nous aient en fait été léguées par des civilisations extraterrestres. Théorie qui permet notamment d'expliquer qu'on ait pu ériger des monuments gigantesques à une époque où la grue n'existait pas. Pour certains penseurs férus de paléocontact, tout s'explique alors.
Les pyramides qu'on voit là. Au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Et les historiens le savent.
Mais les historiens le savent, Baptiste. C'était Gims, lucide comme jamais. Mais peut-être que Gims cache bien son jeu. Qui nous dit que les traînées de fumée derrière son jet privé ne sont pas des traces de pulvérisation d'agents chimiques pour nous manipuler psychologiquement ou dégrader le climat? Peut-être que quand Cyril fait un aller-retour à Las Vegas sur le week-end, c'est pas forcément pour aller voir U2, mais bien pour prendre le contrôle du genre humain grâce à ces soi-disant nuages de condensation qui sont en fait des chemtrails, des pneumasprays, ou des Sky Farms.
Ah oui, c'est ça. On dit ça.
Mais on l'a déjà eu cette question, on l'a déjà fait ce quiz,
cette
Mathieu.
Cette question-là, peut-être que vous l'avez eu, c'est une possibilité que je n'écarte pas. Et c'est dommage maintenant parce que vous alliez emporter le quiz. Mais Mais quoi ? Par votre insolence,
bah oui.
C'est Quentin qui voilà. remporte le quiz. Quentin qui s'est tu.
Vous rendez compte,
ça, voilà. C'est vraiment de l'arnaque.
Mais vous mettez au jour comme
belle
ça.
Belle victoire, Quentin.
Ah oui, je suis
belle
très
victoire.
Content. Belle victoire dans la
vous êtes sérieux, j'ai gagné 3-0. Non,
merci à tous. Non,
j'ai mis une bonne. Il en a mis une dedans. Voilà. Zoom sur la mixophobie, la peur de la mixité. Les enfants, on est toujours avec l'historien spécialiste de l'extrême droite, Baptiste Roger Lacan. Est-ce que la réponse à la mixophobie, c'est forcément le communautarisme ? Personne ne se mélange, chacun reste dans son coin, finalement, l'entre-soi. C'est ce qu'on... J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on est en train de. Ce à quoi on est
alors,
en train
c'est
de.
Alors, c'est la réponse qu'apporte l'extrême droite, très clairement. Mmh. Enfin, c'est un communautarisme qui ne se présente pas comme ça, mais c'est effectivement l'idée de défendre une communauté nationale menacée. Je pense que c'est la réponse qu'apportent certains mouvements, notamment des coloniaux, qui considèrent qu'il faut faire sécession d'une majorité blanche. Mmh. Qui ne laissera jamais la place à des populations non blanches ou non chrétiennes. J'ai l'impression qu'il y a aussi d'autres modèles qui ont été éprouvés. Je pense que le modèle républicain en France a été une tentative. Alors, est-ce qu'il a parfaitement fonctionné ? La réponse est non. Mais
c'est une
a été une tentative de penser quand même à la rencontre des classes sociales et leur l'idée d'une sorte de creuset français. Je pense que les Américains, à leur manière, même s'ils laissent une place aux communautés, imaginent aussi quand même des espaces de rencontre. Je pense que la démocratie, de toute façon, ne se pense pas sans un dépassement des origines. En gros, la démocratie, c'est le refus des assignations identitaires dont on ne pourrait pas sortir. C'est vraiment la rupture des révolutions atlantiques de la fin du XVIIIe siècle. C'est de dire on n'est pas limité à là où on en est, dans quelle famille, dans quel métier, dans quelle caste. Et on peut s'en sortir, en fait.
La mixophobie, on l'a compris en vous écoutant, elle est instrumentalisée par l'extrême droite, mais elle existe quelque part en nous, à un certain niveau. Elle demande qu'à s'exprimer, malheureusement. Vous rappelez qu'il existe, depuis le début du XXe, quatre cibles prioritaires de l'extrême droite, désignées par l'Action française comme les quatre piliers de l'anti-France : les juifs, les protestants, les francs-maçons et ce qu'ils appellent les métèques. Est-ce que ça, c'est toujours le cas aujourd'hui, où les cibles...
Alors, les cibles ont un petit peu changé, pas beaucoup, beaucoup. En fait, les protestants sont sortis après la Première Guerre mondiale. Alors, l'Action française continue quand même à les cibler un petit peu pendant l'entre-deux-guerres, mais ça décroît. C'est d'ailleurs, il y a deux historiens, Jean Bobéro et Valentine Hubert, qui parlent d'une haine oubliée, parce que la majorité des Français ont oublié qu'en fait, la droite et l'extrême droite ont porté des charges très violentes contre les protestants jusqu'à la fin du 19e siècle. Pour les trois autres groupes, non, ça reste très présent.
La
franc-maçonnerie reste une menace identifiée par... Alors, le Rassemblement National, je le thématise pas. Il faudrait voir ce qui se raconte dans les sections une fois que les portes sont fermées, parce que c'est un parti qui est
expert,
c'est pas théorisé. Par contre, il y a des groupes d'extrême droite, de toute cette mouvance, enfin toute cette extrême droite dite mouvementiste, c'est-à-dire tous ces groupuscules qui ne jouent pas le jeu politique par des moyens conventionnels, par l'élection. Eux continuent de dénoncer l'influence des francs-maçons, des juifs et des étrangers évidemment, et c'est rajouté, disons qu'à l'intérieur de ce qu'on appelle de ce que Maurras appelait les métèques, dans ces quatre nations confédérées qui forment les piliers de l'anti-France, depuis les années 70-80, on voit émerger une cible particulière qui est l'immigré issu d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, et depuis les années 90 et surtout 2000, de religion musulmane. C'est-à-dire que c'est une figure qui s'est précisée avec le temps et qui est devenue l'incarnation de l'étranger menaçant.
Vous êtes historien, est-ce que là, on est dans un moment de bascule comme a pu connaître l'histoire aussi sur cette histoire de mixophobie ?
Alors, les historiens n'aiment pas beaucoup le jeu des analogies parce que ça nuit à l'analyse spécifique de chaque situation. On est dans l'histoire de l'extrême droite, je pense quand même dans ce qu'on qualifiera à un moment comme un tournant pour deux raisons. D'une part, parce que pour la première fois dans l'histoire de ce pays, on a au total, si on prend tous les partis d'extrême droite, une extrême droite qui est sondée à quasiment 40% de l'électorat, c'est jamais arrivé, hein, même pendant l'entre-deux-guerres, à un moment où on a une extrême droite qui est effectivement forte, elle n'est jamais aussi forte que ça. Alors il y a d'autres facteurs qui jouent, c'est aussi qu'il y a des effets de porosité plus forts avec la droite dans l'entre-deux-guerres, donc bon. Mais elle n'a jamais été aussi forte que ça. Le deuxième point, c'est que pour la première fois, elle est en position peut-être d'arriver au pouvoir, pas par un coup d'État et pas par une défaite militaire. Et ça, en France, c'est du jamais vu. Et puis, il y a quand même une troisième évolution qu'on essaie de thématiser dans le livre. C'est que dans le discours, et c'est pas un phénomène strictement français, l'extrême droite, en tout cas l'extrême droite partisane, je mets de côté l'extrême droite mouvementiste, hein, mais l'extrême droite partisane, donc le Front National, le Rassemblement National et Reconquête, aujourd'hui n'ont plus au cœur de leur programme un projet de destruction de la démocratie libérale. Ils disent plus on va détruire la démocratie. Ça, c'est une rupture qui est apparue dans les 30 dernières années et qu'on retrouve à peu près partout en Europe. Ça veut pas dire, quand on regarde les partis dont le RN se réclame en Europe, hein, soit leurs alliés, soit les partis dont ils veulent s'inspirer, qu'une fois arrivés au pouvoir, ils ne vont pas tester le plus possible les résistances de la démocratie libérale. Viktor Orban, depuis 16 ans, 15 ans, il fait que ça en Hongrie, il essaie de vérifier où il peut appuyer pour limiter progressivement les expressions démocratiques, pour briser les contre-pouvoirs et pour ramener la démocratie à son expression la plus débile, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait un principe majoritaire qui devrait s'appliquer absolument, ce qui n'est pas du tout le cas. La démocratie libérale, c'est aussi c'est la défense des minorités.
Mais n'en dites pas trop, Baptiste, parce que je rappelle l'ouvrage. Il faut payer pour connaître la suite. 24 euros, nouvelle histoire de l'extrême droite, France 1780-2025. C'est paru au Seuil. Vous écoutez France Inter, il est 16h47. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Aujourd'hui, un écrivain, il s'appelle Renaud Camus. Il naît en 1946 dans une famille bourgeoise de province. Il grandit dans un environnement plutôt cultivé, étudie les lettres, la philosophie, l'histoire entre Paris et Oxford. Dans les années 70, il s'engage à gauche, adhère au Parti Socialiste et vote en 1981 pour François Mitterrand. À cette époque, son nom circule dans les milieux littéraires et culturels progressistes. Il publie et collabore à la revue homosexuelle Guépier et devient une figure intellectuelle respectée. Son livre Trix, en 1979, est préfacé par Roland Barthes. Alors, tout indique que Renaud Camus est un écrivain libre, moderne et ancré dans la gauche. Mais dans les années 1990, un basculement s'opère. Il quitte Paris, vend son appartement et s'installe dans le Gers, au château de Plieux. Ce retrait géographique et social va devenir un tournant idéologique. Renaud Camus observe ce qu'il décrit comme des transformations silencieuses de la population des villages ruraux. Progressivement, il commence à avoir la conviction que le pays change en profondeur. Il raconte que l'idée lui serait venue en 1996 lors de la rédaction d'un guide touristique sur l'Hérault. Il dit avoir constaté un changement de la composition des habitants de certains villages, un constat qui va évidemment se transformer en théorie idéologique. En 2010, il publie Abécédaire de l'innocence dans lequel il développe son concept de grand remplacement. Camus y défend l'idée que les populations européennes dites de souche seraient menacée de disparition, remplacée par des populations non européennes du fait de l'immigration et de la dynamique démographique. Il parle même de génocide par substitution. Ce texte signe sa métamorphose. L'écrivain de gauche devient l'un des principaux théoriciens de la droite identitaire contemporaine. Son expression « grand remplacement » dépasse alors le cadre intellectuel et devient un slogan. Elle circule dans les milieux nationaux européens, inspire des mouvements d'extrême droite et se retrouve scandée, par exemple, en 2010 à Charlottesville aux États-Unis lors d'une manifestation suprémaciste sous la forme « You will not replace us ». Elle sera aussi reprise par des politiques français comme Éric Zemmour, on l'a cité. Renaud Camus, qui fut encensé dans les milieux artistiques et universitaires, devient une référence majeure des mouvements identitaires en 2010. Il est condamné en France pour provocation à la haine raciale après avoir traité les musulmans de voyous et de colonisateurs. Aujourd'hui, Renaud Camus continue d'écrire et de défendre sa thèse. Son influence intellectuelle reste importante dans les milieux identitaires. Comprendre son parcours, c'est aussi comprendre comment un récit peut devenir une force politique et transformer durablement l'imaginaire collectif.
Merci Manon. Et maintenant, Baptiste Roger Lacon, vu qu'on n'a plus du tout de temps, c'est votre plus grand défi toute votre carrière, nous dire le regard d'un historien sur la théorie du grand remplacement. En quelques mots.
Renaud Camus, déjà, il a redit des choses qui existaient depuis longtemps à l'extrême droite. Il reprend notamment des thèses qui sont portées par un romancier qui s'appelle Jean Raspail, qui en 1973 a écrit un livre qui s'appelle Le Camp des Saints, qui est une référence qui imagine un monde dans lequel il y a 1 million d'Indiens qui arrivent sur les côtes provençales et qui viennent renverser, enfin qui du coup bouleversent la société française. Donc lui vient reprendre ce terme, il va réussir à l'instrumentaliser, à en faire une arme. Et en fait, surtout le coup de force de Renaud Camus, c'est que cette expression grand remplacement a été reprise dans l'extrême droite mouvementiste, mais qu'elle ait aussi fait florès dans l'extrême droite partisane, au Rassemblement National, où ils disent Non, mais on ne voit pas du tout ce que ça veut dire. Alors qu'il y a des sorties de Marine Le Pen en 2011 où elle fait très clairement référence à la théorie du grand remplacement et à Reconquête, où là, pour le coup, Éric Zemmour s'en empare. Et puis surtout, c'est une expression qui devient globale. On la retrouve en Nouvelle-Zélande, à Christchurch, aux États-Unis, vous l'avez dit, littéralement partout où il y a une extrême droite identitaire.
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël. sur France Inter.
Il a très mal vécu dernièrement les attaques dont a été la cible son père, Alain Souchon. À qui l'extrême droite reproche d'avoir assimilé les électeurs du Rassemblement National à des cons. Les propos de papa ont été déformés, expliquera Pierre. Il y a deux choses qu'il m'a transmises, le respect de tous les êtres humains et une qualité de cheveux déplorable qui donne ce côté mousseux. Pierre, maintenant que cette mise au point importante est faite, résumez-nous tout ce qu'on s'est dit sur la mixophobie en une minute chrono.
Et aujourd'hui, on a parlé donc de la mixophobie. Restez avec nous, AGC vous fera une très bonne vanne inédite à ce sujet dans moins d'une minute. La mixophobie, c'est la peur de la mixité, mixité sociale, mixité ethnique. Elle est aussi la résultante de la théorie d'extrême droite du grand remplacement. Pour nous en dire plus, notre invité Baptiste Roger Lacan, historien. Pour lui, la mixophobie sociale est certainement la discrimination la moins stigmatisée par l'opinion publique et en même temps la plus commune. Il date ses origines à la Révolution française quand l'aristocratie a agi en réaction à l'égalité juridique et à la fin des privilèges. L'histoire de la mixophobie est donc longue. Elle se retrouve aujourd'hui par exemple dans un retour aux valeurs traditionnelles, catholiques, un repli sur soi qui s'élargit dans la volonté de certaines familles de mettre leurs enfants dans des établissements privés élitistes. Néanmoins, cette peur du mélange prend sa source dans une série de fantasmes, un réflexe pour se protéger de l'extérieur qui est désormais instrumentalisé par l'extrême droite et parfois même par la droite. Ainsi, la peur de la mixité se mue en peur du métissage, nous a dit notre invité, ce qui me rappelle cette définition que je relisais hier soir sous la plume du politologue Pierre-André Taguieff. Oh, la mixophobie, c'est la hantise de la souillure.
Mais quel mytho, ce Pierre. Merci quand même. Et on retrouve maintenant, justement, on en parler. GC qui, comme chaque semaine maintenant, ne comprend plus les thèmes.
C'est mais le non, moment. Mathieu, oui. Parce que moi aussi, quand j'ai ouvert le mail ce week-end, je me suis trompé, comme tous les bons arrêts autour de cette table. Voilà, ben oui, j'ai lu mixologie.
Les grands esprits se rencontrent.
Et j'étais très content, moi, de parler cocktail avec mes petites copines. Hein, j'étais là, enfin, ça va me servir, tous ces barmen que j'ai pépon. Oh. Et en découvrant la doc, ben moi, je pensais tomber sur des recettes de caipirinha et haute curaçao. Voilà. Oui, quoi, oui, j'ai aussi croisé des Brésiliens dans ma carrière d'astiqueuse. Hein, mais évidemment, douche froide, j'avais mal lu puisque c'était mixophobie. Ah. Voilà, la peur du métissage et des mélanges. Et c'est vrai que le vin et la vodka vont pas ensemble. Voilà, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la courade au dernier dîner de Noël. Cette année, je m'en fous. Ouais, tu te souviens, je m'en fous, tu bois de l'eau. Hein. On peut pas se permettre, on peut pas se permettre des prud'hommes avec tous les stagiaires. Hein.
Sans les filles,
mais bon. Pardon, mais mixophobie, est-ce qu'on peut arrêter d'inventer de nouvelles peurs? Parce que, genre, mais qu'on ait peur des araignées ou de Rachida Dati, bien sûr, évidemment. Hein, je veux dire, ça, c'est légitime. Hein, bon, même si au moins, il y en a apparemment une des deux qui ne vole pas. Hein, rien qu'hier, j'ai entendu une nouvelle peur, la tripophobie. Vous savez ce que c'est?
Non.
Hein, la peur des trous. Voilà, ouais, je n'en suis pas atteint. Je n'en suis pas atteint. Hein, moi, par exemple, j'ai peur des chroniques gênantes et pas drôles. Bon, bah, je ne dis pas que je suis atteint de l'orangéraphobie. Voilà. Hein, je veux dire, vainquons nos peurs plutôt que d'en faire un signe de ralliement. Je veux dire, la seule angoisse que devraient avoir les Français, c'est de croiser Quentin avec son micro dehors. Et c'est fou quand même cette peur du métissage. Enfin, je veux dire, une peur de moi. Hein, je rappelle que je suis le fruit de l'accouplement d'une Bretonne et d'un Tunisien. Hein, la GC, une galette sarrasin à la harissa. Voilà, c'est pour ça que je suis grave piquante. La mixophobie. La mixophobie, vos réactions, je m'en fous. La mix, ça me passe au-dessus. Encore une chronique qui fera un million. La mixophobie. Les gens connaissent, je rappelle que les gens connaissent pas vos têtes. Hein. La mixophobie, j'ai quand même l'impression qu'on est sur une peur. Je continue ou tout le monde s'en fout?
Mixophobie,
je vous le dis, hein, parce que. Voilà, la psychiatrie, vous êtes là, on est en retard, mais tu m'étonnes. En tout cas, la mixophobie, j'ai l'impression que c'est une peur de blanc. Hein, je pense que la dernière fois qu'un babtou a eu aussi peur, c'est quand quelqu'un lui a demandé de twerker. Hein, et c'est ironique quand même que ce soit des blancs qui aient peur des métis, alors que c'est exactement les mêmes qui violaient des esclaves entre les cannes à sucre, ce qui donnait des métis. Bon, les calculs sont pas bons. Hein, et surtout, mixophobie, j'ai juste l'impression qu'on invente un mot pour excuser les fachos. Hein, je suis pas raciste, en fait. Je suis plus mixophobe. Non, Karen, t'es une grosse raciste suprémaciste blanche et tu mériterais prendre ta pétée avec un antillais pour comprendre que c'est très agréable. Voilà. Pardon, je suis un petit peu violent en cette fin de chronique. Hein, piquante, je rappelle.
Ouais, ouais, très piquant, là,
mais je crois que la vraie violence, hein, elle vient de la fachosphère et de leur théorie raciale qui ont mené, je le rappelle, à l'esclavage, à l'apartheid, aux camps de concentration et encore plus grave, au journal du dimanche. Hein, allez, vive le métissage et toute personne femme qui dit le contraire, c'est parce qu'elle n'aura jamais couché avec un Tunisien.
Merci beaucoup, Jessé. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom et au Mathurin
Peut-être.
Paru sur 8 dates exceptionnelles.
J'ai reçu des offres d'RTL.
Très bien. Donc, je
salut,
ne sais
alors.
Donc on ne sait pas où vous serez. Vous êtes au Mathurin, mais on n'a pas les dates alors.
Ah, non, merci. Si, Château Thierry, Dax, Auchel et encore Marom, près de Rouen. Il y a plein d'autres dates
laisse
et villes sur icigc.com.
Il a pris en otage l'antenne, qu'est-ce que je te dis. Merci Baptiste Roger-Lacan. Grâce à vous, on sait désormais en quoi consiste vraiment la mixophobie. Et je rappelle votre livre, Nouvelle histoire de l'extrême droite, c'est paru au Seuil. Zoom, zoom, zen.